70, un petit livre avait eu beaucoup de succès. C'était un livre d'un certain monsieur Psorn, qui était un jeune homme de la jeunesse dorée zurichoise et qui était en train de mourir d'un cancer. Et pendant sa maladie, il a écrit ce petit livre qui était en fait son autobiographie et en même temps sa psychanalyse. Et il attribuait son cancer, il avait 33 ans, il attribuait son cancer au fait que quand il posait des questions à ses parents, on lui répondait tout le temps « c'est trop compliqué, c'est pas comparable ». Et ce fait qu'il a empêché de comprendre le monde, en fait, qu'il lui a empêché l'accès au monde, il en a fait en fait la raison même profonde de son cancer. Et donc, si on continue à dire que c'est trop compliqué, c'est dangereux pour nous.
Il y a beaucoup de malades, hein.
Oui, il parle de ça aussi.
Il y a beaucoup de gens malades.
Hein, sinon après, il sera ignoré. Il posera des questions sur les...
Oui, je voudrais poser une question à Nabil. Et tu as voulu raccourcir parce qu'il faut du débat. Mais je crois que tu allais aborder un point qui est essentiel et dont nous avons besoin pour débattre à fond. En quoi Israël est-il un danger pour la France et pour l'Europe?
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je peux compléter la question.
Moi, c'est vrai que, bon, je suis comme Michel, j'ai pas compris parce que, bon, le temps a passé. Sûr, il y a des accommodements. Donc, finalement, cette question de danger me paraît relative. Elle est peut-être nécessaire, comme dit un rationaliste, mais pas suffisante pour comprendre. Parce qu'en fait, il faut aller au fond des choses. Mais le pourquoi ces accommodements, le pourquoi le Mitterrand qui parle de deux siècles, le pourquoi, quels sont les mobiles, qu'est-ce qui s'entend derrière tout ça, quelle idéologie, est-ce que c'est, bon, je ne sais pas, une idée, moi, ça me rappelle ce que tu as dit, ce que vous avez dit par rapport à Mitterrand, c'est le choc des civilisations, presque. Alors que Bush, 20 ans après, ben c'est l'axe du mal, etc. Est-ce que c'est pas ça? Il y a la dimension religieuse, est-ce qu'il faut l'évacuer? Bientôt le conflit n'est pas religieux. Il y a plusieurs paramètres, et la dernière observation, est-ce que la politique israélienne telle qu'elle est pratiquée n'est pas en dernier ressort un danger pour la survie d'Israël elle-même?
Je n'ai pas compris la fin. La politique israélienne,
la politique telle qu'elle est pratiquée n'est pas en dernier ressort, enfin, finalement, un danger pour la survie de l'État d'Israël lui-même.
La politique israélienne.
C'est plus un élément de réponse qu'une question. Oui, c'est plus un élément de réponse qu'une question. Je me souviens que dans le même cadre où on est aujourd'hui, on avait invité il y a quelques années Jeff Halpert, de Physician for Human Rights, et qui nous a déjà expliqué à l'époque, effectivement, ce que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire que Israël, c'est un État très avancé technologiquement, c'est un État de pointe, et qu'en plus, en ce qui concerne, comment dire, les méthodes nouvelles, électroniques et tout, de contrôle des populations, disons, Israël exporte cette méthodologie l'Europe, et ce que Israël fait au peuple palestinien, les classes dominantes dans nos pays encore plus ou moins démocratiques, et elles le font aux pauvres. Et il y a eu un exemple déjà lors des émeutes, je crois, de 2005, où on avait un drone d'ailleurs fabriqué en Israël qui circulait au-dessus d'un quartier qui était à l'époque en flammes, quand il y avait d'ailleurs l'État d'urgence. Il y a une deuxième chose, alors c'est plutôt une question par rapport à ce que tu as dit sur, c'est vrai, un nouveau massacre comme en 48 ou une expulsion de centaines de milliers de personnes, ça semble actuellement plus possible, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Mais disons, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas possible. Bon, comme toi, moi, ça fait des années que je ne crois plus à la solution de deux États, aussi microscopique soit-il l'État palestinien, et puis séparé en petits bouts, quoi, en lambeaux, je pense qu'il n'y en aura pas. Et je me pose la question des directions politiques palestiniennes, aussi bien le Hamas que les autres, l'OLP, qui semblent ne pas avoir compris ça. Bon, alors que on peut le comprendre ici en Europe. Bon, et mais quand même, il y a une petite chose que tu as pas dit, c'est si on observe la géographie aujourd'hui, il y a quand même, et c'est peut-être ça qui justifie le terme de, d'apartheid, hein, c'est les Bantoustans là. Hein. C'est-à-dire que quand on lit dans le journal que des soldats israéliens sont venus en pleine nuit à Ramallah, zone A, sous contrôle soi-disant de Mahmoud Abbas, et qu'ils ont cassé des émetteurs TV et tout ça, bon là, c'est quand même... Donc les Bantoustans, c'est ça, hein, des quelques petites réserves d'Indiens de peau rouge, quoi, hein, c'est un peu ça. Voilà.
Par une chose qui m'a plu dans votre exposé, c'est que vous n'avez pas qualifié la question israélo-palestinienne de question musulmane ou arabo-musulmane comme elle a été qualifiée durant les années 60, musulmane, ensuite arabe, et aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je vois très intéressant. Ma question, maintenant je reviens sur le professeur Daniel Elazar. C'est un professeur d'origine juive qui est aux États-Unis maintenant. Elle a écrit un livre durant les années 60, c'est l'État fédéral par rapport à au Proche-Orient. Qu'en pensez-vous? Serait-elle une solution aujourd'hui, État de l'État fédéral, ou même une résolution, pas seulement gestion de conflit?
C'est pas la Belgique qui sera.
Sur la question qui est essentielle, je pense, aujourd'hui, c'est, aujourd'hui à cause de moi, puisque j'ai ainsi formulé et formalisé, le danger, pourquoi Israël est un danger, vous avez raison, en tout cas, pour ceux qui doutent que ça soit conséquent, vous avez raison d'emblée, je vous le dis, c'est une hypothèse, c'est une manière aussi pour détourner les habituels discours que nous avons. En d'autres termes, je milite pour un nouveau discours sur la question palestinienne et la question israélo-française et israélo-européenne. Je pense que notre discours n'est pas bon. Je pense que notre discours est fini. A fini son... D'ailleurs, il n'y en a jamais vraiment eu du discours arabe. Comme on dit, entre guillemets, face à un discours sioniste à la hauteur. De côté palestinien, il n'y a jamais eu un discours palestinien correct. Si Abbas était là, ou Arafat, ce serait encore pire d'ailleurs, ils n'auraient rien compris à ce que je viens de dire. Ça ne leur parle absolument pas, mais pour des raisons, de culture générale. Le discours, c'est pas... Pourtant dans le corpus de la culture arabe, y compris la culture arabo-islamique depuis longtemps, il y a un grand chapitre important qui s'appelle le discours. Mais les Arabes ont oublié plein de choses depuis, et en d'autres, le discours. Ils ne savent pas ce que c'est un bon discours. Ils croient qu'il suffit de parler. Arafat l'a fait justement chez Mitterrand. Chez Mitterrand, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il est sorti de chez Mitterrand, parce qu'il a été invité après le congrès national d'Alger en 88, Mitterrand lui a dit maintenant, vous êtes fréquentable, vous pouvez venir me rendre visite, vous entrez seul à l'Élysée, vous repartez seul, et condition, quand vous sortez, on vous posera la question sur la charte nationale, la charte de l'OLP, et vous expliquer aux Français que la charte est morte. D'où la fameuse, effectivement, il a respecté,
c'est caduc.
La fameuse caduc. Ça ne veut pas dire U. Les Arabes ne savent pas dire U. Donc il a dit, la charte, alors le journaliste obéissant, il a posé exactement la question que Mitterrand voulait, et Arafat, obéissant, a répondu. La charte nationale en arabe, et on traduisait, la charte nationale est caduque. Et il aurait pu se taire à ce moment-là et partir. Non. Alors, le journaliste, qui est beaucoup plus malin que lui a reposé Et une autre question, il lui a dit, et maintenant que vous repartez après avoir été considéré comme fréquentable, etc., etc., comment vous allez faire avec vos adversaires, les Israéliens? Et Arafat répond, en arabe cette fois-ci, parce que, bon, en arabe, et il dit, donc je traduis, et ça a été traduit pour le 30 millions de Français au moins qui l'écoutaient, il a dit, ne vous inquiétez pas, ce sont nos cousins. Vous vous suivez? Ce sont nos cousins. C'est la même histoire que Mitterrand, hein, quelque part. Hein. Depuis 2000 ans, etc. Ce sont nos cousins. Donc il a ramené l'histoire à des cousins, à une histoire de cousins, alors qu'il avait pour la première fois de sa vie, il a l'occasion de s'adresser à des millions de Français. Et voilà, il leur brouille complètement l'esprit en disant, ah bon, les Français moyennement constitués, normalement constitués, il dit, bah, c'est une histoire de cousins, de cousinage, moi je ne suis pas concerné. Et depuis, Arafat n'a jamais su se demander s'il peut s'adresser à l'opinion publique sans préparer ce qu'il doit dire, tout simplement. Voilà, donc on a un problème de discours. Et moi je pense que, ici en France, nous avons aussi un problème de discours, que ce soit les Palestiniens, on n'est pas nombreux, mais on a un problème de discours, et les amis de la Palestine en France aussi, ils n'ont pas travaillé leur discours. Et on doit, en tout cas, c'est une réflexion à mener. Deuxième point. Face à cette faiblesse du discours, à supposer que j'ai raison, que notre discours est faible, bien entendu, face à cette faiblesse du discours que je prétends, le discours sioniste est un discours extrêmement bien soigné. Il est soigné, il est préparé, quand il devient public, voilà, c'est le discours que tout le monde porterait. Tout le sioniste porterait. Alors que nous, évidemment, on n'a pas cette culture-là. Toujours sur cette question, quelques exemples sur la dangerosité d'Israël sur l'Europe et particulièrement sur la France. Parce que l'Europe, toute l'Europe ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Je ne dirais pas la même chose sur les petits pays européens, par exemple, du Nord. Je pense qu'ils sont un peu... Et d'ailleurs, Israël ne s'intéresse pas beaucoup à eux non plus. Non, là, il s'agit de l'Amérique, il s'agit de la Grande-Bretagne et il s'agit de la France. En moindre mesure, je pense, l'Espagne, le Portugal, etc., beaucoup moins important, pas par activité. Puis les Espagnols, d'ailleurs, ne se comportent pas de la même manière face au sionisme que les Français. Et puis les Français, ils ont cette obsession de la Shoah et que il y a une histoire de culpabilité et que voilà, en face on a rien à dire face à ce drame qui a eu lieu. Mais ça n'empêche que au-delà de ça, prenons quelques exemples. Le gala annuel de Tsahal à Paris. Ça vous paraît un rien? Vous imaginez, revenez en arrière et imaginez que pendant la guerre du Vietnam, que y ait des Français à Paris qui proposent de faire un gala à la gloire de l'Amérique, de l'armée américaine. Des États-Unis d'Amérique. La République se lèverait avec comme un seul homme en disant non, il n'en est pas question. L'Amérique, quand même, elle est en train de bombarder des gens, elle est en train de faire la guerre, on ne va pas s'en mêler, au moins on ne s'en mêle pas. Voilà. Or, ici, on fait chaque année un gala à la gloire, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui dis gloire. À la gloire de Tsahal. Il y a eu à la télévision française il y a eu à la télévision française une publicité passée 19 jours de rêve avec Sahel et de tracts qui ont été distribués dans les métros parisiens. C'est quoi ça? Sahel, c'est une machine de guerre. Et puis, prenons rapidement, puisqu'on n'a pas le temps, hein, c'est ça? Prenons un exemple rapide. La comparaison entre la question de Salah Hamouri et la question de Chalit, de soldat. Le comportement et le traitement, sans entrer dans les détails, le traitement de ces deux questions, les deux sont français. L'un est français d'origine palestinienne, l'autre est français, qui lui-même a décidé d'aller faire la guerre aux Palestiniens. Et il a s'est habillé en uniforme, il était caporal ou je ne sais pas quoi, et il est allé vers la guerre. C'était sa décision de faire la guerre. Il a été capturé. C'est son problème. Bon. Hamouri, il n'a pas fait la guerre à personne. Il aurait pensé que ce rabbin mériterait la mort. Encore que lui, il dit non, je ne l'ai jamais pensé. Se croirait dans le roman 84. Il a pensé que le rabbin mériterait la mort. 7 ans de prison. Il vient, comme vous le savez, il vient juste de... Alors, comment la classe politique, pourquoi la classe politique est malade quand il s'agit d'Israël, est irrationnelle quand il s'agit d'Israël? Pourquoi? Comment peut-on comprendre que Delanoé, lui aussi, se considère parmi les plus intelligents de socialistes français? Comment se fait-il qu'il réunit le conseil municipal de Paris et il fait voter à l'unanimité que Chalit, et ils font de Chalit un citoyen d'honneur de la ville de Paris? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire être citoyen d'honneur de la ville de Paris? Est-ce que vous savez que pour être citoyen de la ville de Paris, d'honneur de la ville de Paris, il faut être un grand bonhomme? J'aimerais bien devenir citoyen, mais je ne le saurai jamais. Comment se fait-il qu'on nomme un soldat de son propre décision est allé faire la guerre à un pays qui finalement ne le regarde pas, d'une part, et qui, d'autre part, n'est pas en guerre avec la France? La Palestine n'est pas en guerre avec la France. Alors que Sarkozy a déclaré la guerre aux Palestiniens. Souvenez-vous, après 2008, il a envoyé Germinal, la frégate, Germinal. C'est une machine de guerre redoutable. C'est une des plus grandes machines de guerre françaises. Il l'a envoyé pointer ses armes vers Gaza. Les Palestiniens venaient d'être massacrés. 2000 personnes ont été tuées ou laissées à vie. Et le président envoie la frégate Germinal devant les eaux de Gaza pour soi-disant
amener les blessés.
Non, pas du tout. Pour aider l'armée israélienne à contrôler le trafic d'armes. C'est ça la raison officielle. Or, il a pointé comme ça. Merde, je suis en train de casser le truc. Il a pointé le Germinal. Pointer une arme dans la règle nationale, dans la règle internationale. Quand tu pointes l'arme vers un pays, c'est une déclaration de guerre. Or, Sarkozy a inventé une nouvelle déclaration de guerre à la Palestine, alors que la France et l'Europe n'a jamais fait plus de déclarations de guerre à ce monde depuis la guerre de Suez, de 56. Comment? C'est quoi ça? Il est idiot. Il n'est pas idiot. Alors qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils font ça? Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Si vous en avez donné la moi, la seule explication est que lorsqu'il s'agit d'Israël, ils perdent leurs moyens. C'est comme le violeur. Un violeur, quand il est en face d'une femme, il perd ses moyens. D'ailleurs, on les traite en général, on les amène dans les hôpitaux ou en prison. Parce qu'ils ne se contrôlent plus. Et bien, j'ai l'impression que nos politiques, lorsqu'il s'agit d'Israël, ils ne se contrôlent plus. Ils ne font plus de politique. Ils ne font plus de la politique, ils font autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette autre chose. Mais ils font autre chose. Et ça, ce n'est pas acceptable dans une grande république comme la nôtre. Alors que, par ailleurs, nous avons un État qui n'est même pas légitime sur la planète Terre, selon le droit international. Parce que quand même, je finirai là-dessus, le droit international stipule, plutôt la tradition du droit international stipule d'une manière claire, qu'un peuple nouvellement arrivé sur une terre ne peut acquérir sa légitimité qu'après avoir signé un accord de paix avec le peuple autochtone. Israël n'a pas encore signé un accord de paix avec les Palestiniens. Arafat, le petit con, allait le faire. Il ne l'a pas fait, et heureusement. Israël, donc, à aujourd'hui, est un État illégitime, selon le droit international.